Vous écoutez Radio France Internationale. Il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Mardi 4 mars, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus, c'est l'heure de la session soirée de l'info sur RFI. 3 heures d'actualité au programme. Et ce soir, c'est Mardi Politique et l'invité dans 10 minutes sera Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint des Républicains. Il répondra aux questions de Roselyne Fèvre et Frédéric Rivière. Juste après, ce sera le débat du jour. Alors que ce mardi, c'est la journée mondiale de lutte contre l'obésité. Et à cette occasion, eh bien, une étude livre des perspectives pour le moins inquiétantes. Elle a été publiée ce mardi, cette étude, et elle annonce que si rien ne change, eh bien, 60% des adultes et un tiers des enfants sur la planète d'ici 2050 seront en surpoids ou obèse. Nous poserons cette question, est-ce que l'obésité est une maladie comme les autres? Comment considérer ce fléau pour mieux y répondre? Et sachant que, eh bien, dans les années qui viennent, les enjeux s'annoncent très importants. Dans une heure, le grand journal du soir, nous serons notamment au Caire, où le plan arabe de reconstruction de Gaza est présenté. 18h30, temps universel, Afrique Soir, la première édition de ce mardi. 19h10, TU. Eh bien, votre session reportage pendant 50 minutes. Accent d'Europe sera en Grèce et en Autriche. Enfin, le grand reportage ce soir nous emmènera en Argentine, le démantèlement silencieux de la mémoire de la dictature. Voilà pour le programme. Et pour l'heure, il est 17h02, temps universel. C'est le journal de Gilles Moreau. Bonsoir Gilles.
Bonsoir à tous.
Et à la une ce soir, Volodymyr Zelensky qui tend la main à Donald Trump.
Oui, 4 jours après la vive altercation à Washington, le président ukrainien se dit prêt à travailler sous le leadership de son homologue. Il laisse la porte ouverte en pleine tension avec les Américains, illustré par la suspension de l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine. L'une des questions est maintenant de savoir si les alliés européens de Kiev peuvent prendre le relais des États-Unis, question qui sera abordée jeudi à Bruxelles, qui accueillera un sommet extraordinaire des 27. Comment donner corps au projet de défense européenne, c'est l'autre grand point à l'ordre du jour. Et en amont du sommet, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, a dévoilé ce matin un plan pour réarmer l'Europe. Il permettra de mobiliser près de 800 milliards d'euros pour sa défense. Jean-Jacques Herry, le dispositif comporte plusieurs volets.
D'abord, une souplesse budgétaire sera accordée aux États membres pour les dépenses de défense. Autrement dit, il y aura une dérogation au pacte de stabilité européen, le fameux pas plus de 3% du PIB de déficit, pour offrir une meilleure marge budgétaire. Si les États dépensent pour leur défense, on n'ira pas leur taper sur les doigts pour déficit excessif. Car il faut le rappeler, tout ne sera pas financé par des fonds européens. Loin de là, la défense étant une prérogative nationale des États membres. Sur les 800 milliards d'euros qui seront mobilisés grâce au plan, 150 le seront sous forme de prêts à disposition des 27 dans le cadre d'un nouvel emprunt commun qui pourrait ressembler à celui souscrit pour faire face au Covid. L'idée est de favoriser des achats groupés dans la défense antiaérienne, les missiles, les systèmes anti-drones ou l'artillerie, avec un triple objectif de fourniture rapide de matériel militaire à l'Ukraine, de réduction des coûts et d'amélioration de l'interopérabilité des armées européennes, c'est-à-dire de leur capacité à travailler ensemble. Autre piste évoquée, la réorientation de sommes déjà budgétées par l'UE vers le financement de la défense. Cela pourrait être le cas des fonds de cohésion, par exemple, normalement versés aux pays pour développer les régions les plus défavorisées. On n'a pas, pour l'instant, d'informations sur les montants en jeu. Enfin, Ursula von der Leyen a évoqué une mobilisation de capitaux provenant du secteur privé, sans plus de détails. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
J'ajoute qu'en France, le gouvernement a redit aujourd'hui son opposition à une saisie des avoirs russes gelés pour financer la défense européenne. Ce serait contraire aux accords internationaux, a expliqué ce matin sur France Info le ministre de l'économie Éric Lombard. Moins 3,5% à Francfort, moins 8% à Paris, moins 1,27% à Londres. Les marchés boursiers ont plongé dans le rouge toute la journée, plombés par la peur d'une guerre commerciale mondiale. Les nouveaux droits de douane américains sont entrés en vigueur contre le Canada, le Mexique et la Chine. 25% sur les produits canadiens et mexicains, alors que la taxation des produits chinois passe à 20% au lieu de 10%. Décision stupide, a réagi le Premier ministre canadien. Ottawa a promis de riposter. La Chine annonce elle aussi des mesures de rétorsion, Justine Fontaine.
Pékin vise une partie de l'électorat de Donald Trump, les agriculteurs. Dès lundi prochain, la Chine va ainsi taxer toute une série de produits agricoles américains. Plus 15% de droits de douane sur le blé, le maïs, le coton et le poulet. poulet, plus 10% sur le soja, le bœuf, le porc, les produits laitiers, les fruits et légumes ou encore les fruits de mer. Dans cette liste, les céréales et les oléagineux comme le soja, le blé et le maïs, c'est justement le principal secteur d'exportation américaine vers la Chine avec les produits pétroliers. Autre mesure de représailles, Pékin interdit à 25 entreprises américaines supplémentaires, principalement dans le secteur de la défense, de mener de nouveaux investissements en Chine. Le gouvernement les accuse de vendre des produits à Taïwan, île indépendante de facto, mais que Pékin considère comme l'une de ses provinces. Cela dit, toutes ces représailles restent assez limitées. D'abord, les droits de douane imposés par la Chine sont plus faibles que ceux imposés par Washington. Ensuite, ils sont très ciblés, contrairement à ce qu'a fait la Maison Blanche qui vise, elle, tous les produits chinois, sans exception.
C'était Justine Fontaine. La capitale égyptienne, Le Caire, accueille un sommet arabe sur l'avenir de la bande de Gaza ravagée par la guerre. Dans son discours d'ouverture, le président Al-Sisi a indiqué que son plan de reconstruction garantirait le maintien sur leur terre des habitants du territoire et que celui-ci serait administré par un comité de technocrates palestiniens. En Cisjordanie occupée, l'armée israélienne poursuit l'opération qu'elle a lancée deux jours après la signature du cessez-le-feu à Gaza. À quelques 40 000 Palestiniens ont été contraints de quitter leur foyer. Cette opération de l'armée se double d'une augmentation des attaques de colons israéliens. Reportage de notre envoyé spécial Oriane Verdier.
Jawad Razal habite Sébastia, une ville antique à flanc de colline enfouie sous les oliviers. Nous voulions voir ses champs, mais devons nous contenter de les regarder de loin.
Il y a quelques semaines, une voiture pleine de colons s'est approchée. Moi, j'étais seul, un vieux monsieur dans mon champ. Ils m'ont insulté. Ils m'ont dit que ces terres étaient celles d'Israël. Ensuite, ils m'ont frappé au visage. Je suis tombé par terre. Ils m'ont donné des coups de pied. Ils étaient armés. Ils m'ont dit qu'ils allaient me tuer si je revenais, qu'ils me surveillaient depuis la colonie là-bas. Maintenant, je vais sur mes terres discrètement, comme un voleur.
Ces violences ne sont pas nouvelles. Le père de Jawad a été tué par des colons devant ses yeux il y a 20 ans. Mais après le 7 octobre 2023, tout a changé, estime Jawad. L'armée et les colons avancent ouvertement, ensemble, affirme le maire de Sébastia, Mohamed Azim.
Vous voyez, ça c'est un ordre du chef de l'armée israélienne dans la zone. Il nous le dit qu'il va prendre des terres qui appartiennent au village pour créer une route entre les colonies des environs que seuls les colons israéliens auront le droit d'emprunter. Avant le 7 octobre, nous aurions essayé de manifester. Aujourd'hui, nous avons trop peur d'être tués.
Les colons que nous avons sollicités n'ont pas accepté de nous rencontrer. Julien Boileau, Oriane Verdier, Sébastia, RFI.
En France, la mort d'une figure de la droite, Jean-Louis Debré, ancien président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, un proche de Jacques Chirac. Jean-Louis Debré était le fils de Michel Debré, qui lui était une figure du gaullisme. Il disparaît à l'âge de 80 ans. Le procès de Joël Le Scouarnec se poursuit au tribunal de Vannes, dans l'ouest de la France. Cet ancien chirurgien est accusé de viol et d'agression sexuelle sur près de 300 patients, essentiellement des enfants à l'époque. Durant sa carrière de plus de 30 ans, il a travaillé dans plusieurs établissements publics et privés. Y a-t-il eu des liens entre son parcours professionnel et ses penchants pédocriminels? C'est la question sur laquelle s'est penchée la Cour ce matin. Compte rendu d'audience, Laura Martel.
La présidente revient d'abord sur son départ précipité de la clinique de Loches, dans le centre de la France, pour Vannes, en avril 94, alors que son contrat se terminait en août. Or, l'année 94, c'est l'un des carnets intimes que l'accusé a détruit. Il y a ce départ rapide, on parle de litige. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir à 400 km, vous avez pensé avoir été surpris dans vos actes, interroge la magistrate. Absolument pas, répond Joël Le Scouarnec, qui plaide un conflit avec un collègue. Vous avez essentiellement travaillé dans de petits établissements en mal de praticiens. On peut se demander si vous avez délibérément choisi des structures peut-être moins regardantes, relance la présidente. Nouveau démenti. Les questions s'enchaînent ensuite sur un même thème. Comment l'accusé peut-il se décrire envahi par sa pédocriminalité, assouvi sur ses patients, et soutenir que ça n'a eu aucune incidence sur sa pratique? Ce sont deux choses qui se juxtaposent, répète l'ancien chirurgien qui tente d'expliquer. Je sais que c'est inconcevable et ça ne me dédouane en rien, mais la pédophilie n'a jamais interféré dans mon activité professionnelle, hormis le fait que j'ai profité de mon statut pour commettre des agressions. Mais je passais à l'acte sur des patients présents, je n'ai jamais pris de décision médicale pour avoir accès à un enfant.
En bref, état stable pour le pape François, hospitalisé depuis 10 jours à Rome pour une pneumonie des deux poumons. Le pronostic vital reste réservé, fait savoir le Vatican. Enfin, le prix Pritzker, considéré comme la plus haute distinction mondiale de l'architecture. Ce prix revient cette année au chinois Liu Yakun. L'organisation basée à Chicago a récompensé un architecte du quotidien. Voilà pour le journal. Tout de suite, Mardi Politique, qui reçoit Pierre-Henri Dumont.